Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles au cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait ça, j'aime pas.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
S'il y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et oui, une semaine, ça passe très vite et on se retrouve à nouveau pour parler de cinéma sur Radio Grand Air, votre émission incontournable de notre région, de la radio aussi.
Merci.
Et c'est
j'adore
un petit peu le...
Non, mais c'est bien.
C'est un petit peu le pilier de la radio quand même, il faut le dire. Pascal fait ses débuts avec nous et c'est toujours un plaisir. Et bien de te retrouver dans ta deuxième maison, qui est le cinéma,
La Brèche. Bien sûr, oui, depuis 30 ans. Je crois que cette année, j'atteins les 30 ans de carrière, je crois.
Ah, c'est beau ça.
Ouais, je crois que j'ai commencé. Ouais, si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai commencé en 94. Si mes souvenirs sont bons, peut-être 93. Voilà. Enfin, c'était vraiment au sortir des études.
Eh bien, le temps passe vite. En tout cas, on est toujours très heureux de t'accueillir à la radio.
Il y a 30 ans, mais ça passe vite, mine de rien. C'est marrant. Hein. On a l'impression que c'est long, mais quand tu te retournes et tout, tu te dis waouh, c'est quand même relativement vite passé.
C'est aussi des expériences et puis avec le temps, des rencontres. Le cinéma, c'est
surtout que on voit le cinéma évoluer.
L'évolution du cinéma, la technologie.
La technologie évolue. On voit aussi les manières de filmer évoluer. On voit aussi le cinéma lui-même évoluer. Hein. Parce que mine de rien, on est passé de une salle à trois salles. Voilà, il y a tout. Mais le monde sans le temps n'est qu'évolution. Le tout, c'est pas, faut pas que ça y a en arrière, qu'il n'y ait pas régression. Donc tant que ça évolue, tout va bien.
Exactement. Alors qu'est-ce que tu nous as mijoté cette semaine, Pascal?
Alors déjà, bonjour à tous les auditeurs.
Oui, bonjour.
De Radio Grand Air. Soyez tous et toutes les bienvenus dans ce numéro 79 d'Entracte.
Ça y est, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Et bien évidemment, tu vas nous présenter le sommaire de l'émission avec un petit raccro. On va parler aussi d'un rendez-vous cette semaine à La Brèche. Mais tout d'abord, le sommaire. Ouais.
Hein. Alors, je vous ai préparé quand même plusieurs films. Hein. On va parler du dernier film pour les petits, là, de Karl Brunker, La Patte Patrouille, La Super Patrouille. Alors ça, c'est un petit film d'animation qui avait bien cartonné là, pour les tout-petits. Hein. Et qui, je pense, aura du succès. Hein. On va parler aussi, mais évidemment... Le film qu'on aura en sortie nationale, le dernier Luc Besson.
Ah, ça va
Luc Besson,
saigner.
Oui, il va toujours. Qui nous épate toujours. Dogman.
Ouais.
Dogman.
On a vu quelques extraits là-dessus.
Ah, moi, j'ai vu le film annonce. Ouais, ça m'a quand même bien fait réfléchir.
Ça déménage.
Déjà, ça déménage, évidemment. Mais ça m'a fait penser à d'autres films. C'est vraiment, je dirais, pas forcément inspiré, mais j'ai vu d'autres scènes de films dedans, on en reparlera tout à l'heure. On va parler aussi du dernier film, la comédie de Philippe Lefebvre, Nouveau départ. On va parler également aussi du dernier film de Michel Gondry. Michel Gondry,
ben oui.
Le livre des solutions. Ainsi que du dernier film aussi de Catherine Breillat, l'été dernier. Et on va parler aussi d'un documentaire. De Clara Bouffartigue, Louilles-tu ? Et on va parler aussi assez brièvement aussi du dernier film de Aki Kaurismäki, un cinéaste finlandais, on va présenter Les Feuilles mortes en version originale sous-titrée.
Voilà, c'est un rendez-vous sympa qu'on aura dans les murs du cinéma La Brèche avec une rencontre, tu l'as dit, et on reviendra sur cet événement d'ici quelques instants. Alors on va commencer par... oui, dis-moi, oui, le personnage de la semaine.
Dans le cadre, c'est dur la reprise, non ?
On va aller plus vite que l'éclair.
Et dans le cadre donc de la sortie du film Le Livre des Solutions, j'ai choisi comme personnage de la semaine un acteur qui grimpe, qui monte sûrement, doucement mais sûrement. On va parler de Pierre Niney.
Exactement, on fera connaissance avec l'artiste d'ici quelques instants.
Voilà, que tout le monde connaît.
Oui, bien sûr.
Plus que Michel Villermoz.
Alors on va commencer par Rendez-vous Jeunesse.
La Patte Patrouille, évidemment, alors c'est un film qu'on aura en avant-première. Donc c'est un donc la Patte Patrouille, la Super Patrouille donc de Carl Brunker, hein. Un film américain donc d'animation d'une heure 28, animation famille aventure. Lorsqu'une météorite magique s'écrase sur Aventureville, elle donne à la Patte Patrouille des pouvoirs, les transformant en Super Patrouille. Pour Stella, la plus petite membre de l'équipe, avoir des pouvoirs est un rêve qui devient réalité. Mais les choses dégénèrent lorsque Monsieur Hollinger, l'ennemi juré de nos amis, s'évade de prison et s'associe à un savant un savant fou afin de voler et s'accaparer ses nouveaux pouvoirs. Le destin d'Aventureville est désormais en jeu. La Super Patrouille doit arrêter les super vilains avant qu'il ne soit trop tard. T'imagines bien, et Stella va découvrir que même le plus petit des chiens peut faire la plus grande des différences. Ça sera à découvrir en famille avec vos enfants, donc en avant-première à la Brèche cette semaine.
C'est bon.
Dans l'avant-première, ce sera dimanche 1er,
ouais,
à 16h.
Voilà, dimanche, eh bien, on a dit c'est un bon rendez-vous familial, voilà. Et qui fait vraiment du bien. Alors Pascal, on va revenir sur notre rendez-vous de la semaine. On change totalement de registre. Hein. On va parler notamment d'un Luc Besson.
Voilà, oui.
Ouais.
Le dernier Luc Besson.
Ouais.
Dogman.
Et ça va saigner.
Eh ben, je pense que oui, parce que c'est vraiment, oui, c'est pas un film qui est tout en douceur. Hein.
Ouais.
C'est un film sur un révolté. C'est quelqu'un qui s'est fait opprimer, qui va se venger. Tu penses bien.
Ouais.
Donc Dogman, évidemment, quand nous serons en sortie nationale, donc c'est un film franco-américain d'1h54, c'est action thriller, de Luc Besson. Alors évidemment, Luc Besson, tout le monde le connaît, je le présente plus.
Ah bon, c'est qui?
Ah bon, en 2019, il a réalisé Anna, avec Sacha Luce et Hélène Mirren. En 2017, Valérian, il a cité des 1000 planètes.
Oui, c'est vrai. Oui.
Tu l'as pas vu celui-ci?
Non, j'ai entendu parler.
Moi, je l'ai vu, moi j'ai pas détesté du tout. En 2014, il a réalisé Lucie,
oui,
avec Scarlett Johansson. Alors ici, on va retrouver... Alors là, ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est qu'il n'y a pas d'acteur connu.
Oui.
Ça me plaît bien.
Mais il y a toujours un acteur central dans ces films.
Ah, toujours.
Ouais.
Ah, oui.
Un personnage très particulier.
On va le découvrir. Oui, bon, alors déjà, je pense que c'est le protagoniste du film, déjà, je pense. Hein, qui est joué par Jojo T. Gibbs. On va retrouver Caleb Landy Jones, Christopher Dunham, Grace Palma, Clemence Schick, John Charles Aguilar, Iris Bray et Marisa Berenson, voilà, d'illustres inconnus. Alors le speech, il est pas compliqué, hein, il tient sur deux lignes.
Ah bon ?
Eh oui, c'est l'incroyable histoire d'un enfant meurtri par la vie qui trouvera son salut grâce à l'amour que lui portent ses chiens.
Ouais.
D'où le titre, Dogman.
Ouais, exactement. Ouais.
Alors Dogman a été présenté en avant-première au Festival de Deauville et en compétition au Festival de Venise. Alors, comme il nous dit Luc Besson, il dit « C'est en lisant un article sur une famille qui avait jeté son enfant de 5 ans dans une cage que Luc Besson a eu l'idée de Dogman. » Et comme il nous dit « Je me suis demandé comment un être humain pouvait traverser une telle épreuve, surmonter ce traumatisme psychologique et émotionnel. C'est ce que j'ai eu envie d'explorer dans Dogman. Nous avons tous en commun la souffrance et la seule arme pour la combattre, c'est l'amour et le partage. » Moi, je dis quand on est sage.
Hein. C'est vrai.
La société des hommes apporte un peu de réconfort, mais l'amour peut permettre de panser ses plaies. Donc Luc Besson déclare donc les spectateurs vont au cinéma pour approcher une forme de vérité dans l'histoire qu'on leur raconte, même s'ils savent qu'il s'agit d'une fiction. J'ai voulu être aussi sincère que possible dans ce film. Je souhaiterais que le spectateur ressente les émotions du protagoniste, qu'il comprenne les actes qu'il commet en réponse aux souffrances qu'il a subies et qu'il s'identifie pleinement à lui. Cela ne devrait pas être difficile, étant donné que tout le monde a connu une souffrance au moins une fois dans sa vie. J'espère que le spectateur comprendra ce que Douglas a enduré et cette douleur qui est si difficile à surmonter. Il a souffert plus que la plupart des gens, mais il garde intacte sa dignité. Alors la préparation de Caleb, je me suis trompé tout à l'heure, le protagoniste c'est Caleb Landry Jones. Donc le tournage du film a été calé sur la progression du personnage principal. Cela a permis à Caleb Landry Jones de se préparer au mieux. Sur certains films, ce sont des montagnes russes en permanence, mais Luc avait qualifié le tournage d'une façon très intelligente qui m'a permis d'être sur le qui-vive du début à la fin. Et il ajoute, Après les deux premières semaines, j'ai pu me concentrer au maximum sur les scènes avec Evelyn, que je redoutais le plus. Je rentrais à l'hôtel, je préparais ces scènes et je travaillais avec un autre acteur, Tonio, pendant 4 ou 5 heures. C'est uniquement grâce à ce travail préparatoire que j'ai pu tout mémoriser. Le comédien a passé un an avec Lubesson. Et comme il nous dit, pour être certain qu'on soit à l'aise l'un avec l'autre et qu'on s'apprécie humainement, précise le réalisateur. Oui, alors ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail en amont. Alors évidemment, il a fallu travailler avec des chiens.
Eh oui, tu penses bien. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, travailler avec les animaux, c'est pas forcément évident de se mettre en scène.
Et non, il faut se mettre en rapport avec d'excellents dresseurs.
Et la patience. Hein.
Donc oui. Donc sur les conseils de Louis Leterrier, Luc Besson a collaboré avec la dresseuse d'animaux Mathilde de Cagny. Celle-ci a notamment travaillé sur Retour vers le futur 2 et 3, Pour le pire et pour le meilleur, et Marley et moi. Malgré son expérience, la dresseuse ressentait une certaine appréhension face à l'ampleur de la tâche. Et comme elle nous dit, je savais que le film allait mettre en scène un groupe de chiens, mais pas qu'il en aurait autant, avec beaucoup de personnalités différentes. Elle a privilégié des chiens disposant déjà d'une solide base de dressage et ne nécessitant pas d'intenses préparations. Elle a contacté Muriel Beck, gérante d'Animal Contact, société qui fournit des animaux pour la télévision et le cinéma français. Beck a été chargée de la majorité du recrutement canin et de la constitution d'une équipe de dresseurs. Au total, une quinzaine de dresseurs ont été engagés pour trouver les nombreux chiens nécessaires au tournage. Sofiane Tarfet, spécialiste du dressage au mordant, technique permettant aux chiens d'apprendre à contrôler la force de sa mâchoire, et le chef cascadeur Alain Figlartz ont également participé à Dogman. Ce dernier donc a été notamment là pour se faire mordre à la place des acteurs. Ouais, vaut mieux, on sait jamais, un petit dérapage.
Ouais.
Et hop là. Enfin, Khaled Landry Jones a passé 3 jours avec les chiens et les dresseurs pour se familiariser avec les animaux. Oui, un gros, gros, gros travail. Mais alors, quand on regarde le film annonce, moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un film. Parce que on n'avait pas les mêmes images, mais par contre, on avait certaines prises de vue qui étaient quasiment identiques et un personnage qui ressemble énormément.
De Joker.
The Joker.
Ah oui,
exactement.
J'ai fait pareil. Ouais.
T'as pensé à ça aussi?
Bah oui, absolument.
Donc, c'est. Je pense aussi qu'il s'est dirigé un petit peu vers cette psychologie, quelqu'un d'un petit peu introverti qui a beaucoup souffert et qui va exploser. Ouais. Littéralement explosé. C'est ce qui se passe chez le Joker. À un moment, il craque, il va flinguer des gens dans le train, dans le métro, et il se fait, on va dire, happer par sa folie, quoi. Et j'ai pensé vraiment à ça, quoi. Mais à découvrir, donc, à la brèche, évidemment, c'est du Luc Besson. Qu'est-ce qui caractérise Luc Besson? Ben, c'est quelqu'un qui sait faire de très bonnes images.
Oui, c'est vrai. Je crois qu'il était à l'époque très en avance sur la technologie. Le Grand Bleu, par exemple. Hein. On se souvient du Grand Bleu.
Le Grand Bleu, oui.
Avec des images,
les images
impressionnantes.
C'était d'enfer, ouais.
Ouais.
Voilà. Après, ce qui pêche, pour moi, un petit peu chez Besson, c'est le scénario.
Oui,
c'est vraiment.
Alors, je trouve
vraiment,
qu'avec le temps. Ouais,
le super pote scénariste.
Ouais.
Des fois, justement, mais je ne dis pas que c'est forcément un peu simplé, mais l'univers de Besson, c'est souvent blanc-noir.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est
blanc, sauvage.
Noir, voilà.
C'est sauvage.
Voilà, alors que ça serait chouette si c'était un peu gris, ou gris foncé, ou gris clair.
On a vu l'évolution de Luc Besson à travers le temps.
Ouais.
Je me souviens, on disait les débuts de Besson dans Le Grand Bleu, par exemple, ou Le Cinquième Élément. Ce sont des films remarquables. Mais avec le temps, effectivement, on est allé beaucoup plus sur la violence avec Besson, et on accepte de suite, si tu veux, la ligne de Besson, ou soit on décroche. C'est vrai que c'est assez violent parfois.
Ah ben là oui, surtout les derniers là qu'il a réalisé, oui, ça envoie pas mal. Hein. Mais là, je pense que voilà, ce sera un film à découvrir. Après, c'est du spectacle, hein. Faut pas non plus aller chercher trop, tu vois, la réflexion profonde du cinéma de Luc Besson, parce que bon, on n'est pas là pour ça, franchement. Mais voilà, moi, c'est ce qui a toujours pêché chez lui, c'est ce que je pense qu'il aurait dû, avoir son scénariste, quelqu'un qui bosse vraiment vraiment sur le scénario, avec ses images à lui, on pourrait faire des choses vraiment vraiment sympas. Voilà. Bon, il fait des films sympas, Luc Besson, ça s'empêche pas. Hein. Mais voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne.
On avait Léon
Dogman,
aussi, Léon.
Léon, ouais, c'était pas mal
à l'époque. Hein. Mais c'est vrai que Luc Besson a beaucoup tourné avec Jean Reno, quelques acteurs français, et de plus en plus maintenant on le retrouve avec des acteurs peu connu et
mais là, je trouve ça chouette. Hein. Ouais, non, je trouve, ouais, parce que il y a très peu
d'acteurs français. Hein.
Ouais, il avait des acteurs assez connus pour faire ses têtes d'affiche. Là, il y a pas d'acteurs connus. Ça, j'aime bien. Mm-hmm. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est déjà donner la chance. C'est pas arrivé avec une tête d'affiche en disant regardez, j'ai pris cet acteur-là ou cette actrice. Hein, j'ai vu qu'il avait pris Scarlett Johansson. Voilà, c'est ces grandes actrices-là qui sont quand même très demandées. Et nous, on trouve c'était bien. Laisser la place un petit peu aux autres, ceux qui ont envie de bosser, ceux qui ont envie de percer aussi dans le métier. Et puis découvrir aussi d'autres talents. Hein. C'est vrai que des fois, j'entends des gens qui reprochent un petit peu au cinéma français que c'est comme une espèce de panier à crabe, on voit un petit peu toujours les mêmes et tout. Et oui, quelque part, c'est un peu vrai. Bon, déjà parce que ce sont de bons acteurs. Mais ça serait bien aussi de laisser la place à d'autres acteurs. Hein. Alors ça ne veut pas dire mettre un coup d'écrémer le parc d'acteurs français, bien sûr que non. Mais je trouve ça chouette cette démarche, j'aime beaucoup cette démarche-là.
Et bien Pascal, on va marquer une pause sur Radio Grand Air, on va découvrir ensemble la bande-annonce et on se retrouve juste après.
J'ai toujours adoré me travestir. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas vraiment qui on est, n'est-ce pas? On se déguise, on s'invente un passé pour oublier le sien.
Tu les aimes, les chiens, hein? Plus que t'aimes ta propre famille?
Ça, c'est sûr.
T'es un chien! Sale petite merde!
Et vous n'aviez personne d'autre? Vous montrer de l'attention ou un peu d'affection.
Les enfants prennent l'affection où ils la trouvent. Ce sont mes bébés. Autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut. Ils ont confiance en l'homme. Voyez-vous, alors que le monde réel me rejetait constamment.
Tu es le diable. Je vais te renvoyer à l'enfer.
Je me suis adapté.
Descends-les. Merci.
Voilà, on va bien sûr. On va frissonner.
Ça va déménager. Ah, mais oui, ça va défourailler.
Alors, ce qui est bien aussi avec Lubesson, il y a un petit peu d'humour.
Petit
décalage avec la musique. voilà. Je me souviens dans Léon, c'était ça. Hein, quand les flics ripoux arrivent.
Avec la chorégraphie.
Avec la chorégraphie.
Et oui, mais d'ailleurs.
Exactement.
Ça ressemble aussi un petit peu au cinéma de Tarantino.
Ah oui, exactement. Exactement.
Je sais pas, je pensais à Reservoir Dogs.
Ah ouais, c'est vrai.
Dogman. Voilà, ou à Pulp Fiction, ce genre de film.
On est un petit peu sur ça, oui, effectivement. Ouais. Le nouveau Luc Besson à voir cette semaine à la Brèche, Pascal. Et c'est tant mieux.
Et c'est chouette.
Ouais. Amenez votre chien.
Pour les amateurs, voilà. Et là, ils ne sont pas autorisés dans les cinémas. Sauf pour les
malvoyants. Ah oui, c'est normal.
Donc je le rappelle quand même.
C'est très important. Nouveau départ avec le retour de Franck Dubosc et son équipe.
Voilà, alors on va parler de la dernière comédie de Philippe Lefebvre. Nouveau départ, que nous aurons en sortie nationale. Un film français d'une heure 40, une comédie, une romance.
Très bien.
Alors là par contre, oui évidemment, on va retrouver plein d'acteurs. Et d'autres qui reviennent, je suis content d'en voir d'autres. Enfin, certaines qui reviennent. On va retrouver Franck Dubosc, Karine Viard, Clotilde Courau.
Très bien.
Ça fait longtemps, hein,
oui, c'est vrai.
Youssef Haïdi, Tom Leck, Clémentine Berthe, Bérangère Krief, Louise Ori Dikiro. Donc, amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l'a bien vécu. Diane, moins. Cette période, elle l'entame avec la sensation qu'elle pourrait mourir d'ennui ou d'angoisse. Pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser les questions essentielles et de prendre un risque majeur après 30 ans de vie commune. Quitter Diane pour réveiller la flamme et l'envie de se retrouver. Quel drôle de projet.
C'est vrai, c'est un beau projet. Hein.
Quel projet dangereux.
Ouais, c'est vrai.
Alors, Un nouveau départ est né par l'intermédiaire des producteurs Mathias Rubin et Éric Juérian, qui ont proposé à Philippe Lefebvre de voir le film argentin El Amor Menos Pensado, sorti en France sous le titre Retour de Flamme. Le metteur en scène se rappelle. J'ai adoré le sujet. Les enfants qui quittent le domicile parental pour vivre leur vie, ce que l'on appelle le syndrome du nid vide, me paraissait être un bon point de départ. Cela me parlait puisque j'ai deux grands enfants dont l'une est déjà partie et que j'appréhende l'envol du second. Il m'a semblé que le sujet était assez universel. Avec ma co-scénariste Maria Porcher, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure en tirant l'histoire vers la comédie sans perdre le réalisme pour suivre un couple de quinquagénaires, Diane et Alain, qui se retrouvent face à face et dans tous leurs états après le départ du petit dernier. Alors côté casting, oui évidemment, alors que Philippe Lefebvre travaillait sur le projet avec sa co-scénariste dans un café, Karine Viard, que le cinéaste connaît depuis longtemps puisqu'ils faisaient du théâtre ensemble, est entrée, il lui a demandé ce qu'il faisait là. Et il se souvient, je me souviens lui avoir répondu « J'écris pour toi ». Elle avait ri, un an après, je lui ai envoyé le scénario, elle a été enthousiaste à la première lecture me disant « Je la comprends tellement. Franck, je le connais depuis l'adolescence puisque nos deux familles passaient chaque année les vacances dans le même camping en Dordogne, emplacement 17 et 24. »
Et c'était où, en Dordogne ?
Cela restera un mystère.
À prochaine fois.
Ça fait... Ah, peut-être bien. Eh bien... vu le nombre de campings,
allons-y.
Là, ouais. Ça peut être du côté de Sarlat, du côté de Lascaux, du côté.
Ça peut être en Périgord noir,
exactement.
Comme ailleurs.
Et comme elle nous dit, j'ai pensé à lui pour incarner Alain en le voyant avec ses enfants. C'est l'homme et le père que je voulais pour le film, plus encore que l'acteur de comédie. Alors, Nouveau Départ raconte l'usure des couples, la passion qui s'étiole et quelque chose qui touche Philippe Lefebvre, lequel pense qu'il s'agit d'un problème lié à un manque de maturité chez les hommes. Le réalisateur précise. Heureusement, il y a des facteurs apaisants. La réalisation professionnelle, la construction d'une famille. Mais quand tout cela n'est plus d'actualité, le manque de passion revient. Ce que je trouvais intéressant, c'est de parler de ce moment dans la vie où aimer l'autre ou être aimé de lui ne suffit plus. Car le problème est ailleurs. Il est en nous, indépendamment de celui avec qui on partage sa vie. C'est le moment où il faut se réinventer, retrouver une énergie, se redéfinir dans le regard de l'autre. Les problèmes de couple, c'est la confrontation de nos crises intérieures. Bon, c'est seulement mon expérience et ma petite analyse de ce que j'observe autour de moi. Alors Clémentine Berthe incarne Agathe, une jeune femme avec laquelle Franck Dubost a une relation. Et comme il nous dit, elle a passé le casting, mais je la connaissais pour avoir joué avec elle dans un téléfilm et je l'avais revue à l'écran dans Nous finirons ensemble, le film de Guillaume Canet, où elle incarnait la nouvelle femme de Max, le personnage de François Cluzet, se souvient Philippe Lefebvre. Maria Porcher, co-scénariste du film et romancière depuis plus de 10 ans, elle est à l'auteur de 7 ouvrages dont Feu, publié en 2021, et qui a figuré sur la première liste des prix Goncourt, Renaudot et L'Intégralité, entre autres. Elle est considérée comme une écrivaine surdouée au style souvent qualifié de galopant et décapant. Son 7e roman western, publié aux éditions Stock, est l'un des événements de la rentrée littéraire 2023. Et elle confie au sujet du métier de scénariste. La toute première fois où je me suis intéressé à ce métier, j'étais en effet très jeune. Alors écoute bien, parce que moi j'ai adoré ça, tu vas voir le truc. Je regardais des films avec mon père et j'étais très sensible, non pas à l'image, mais à l'art de la formule, de la réplique. Je lui ai demandé si c'était un métier d'écrire ce que les gens se disent dans les films. Il m'a répondu oui. Et là, c'est Michel Audiard. À l'école, sur les fiches de renseignement que l'on doit remplir, j'ai longtemps écrit dans la base métier envisagé, Michel Audiard. Et en un seul mot et avec un O. Écoute bien comment elle écrivait. M-I-C-H-E-L-O-D-I-A-R. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans votre vie, Michel Audiard? Vous voulez dire, c'est une bonne référence.
Exact.
Parce que Michel Audiard, quand même, c'est un dialoguiste qui est quand même reconnu. Ouais, ouais. Et on te montre un film avec les yeux fermés.
On reconnaît.
Tu vas reconnaître.
La touche voilà. D'Audiard, ouais, effectivement. Oui,
parce que Michel Audiard, c'est quelqu'un qui c'est pas un dialoguiste, c'est pas un compositeur, on va dire. C'est quelqu'un qui adorait l'immersion. Mm-hmm. Et Michel Audiard avait la riche idée. De se mettre dans le fond des cafés.
Ouais.
Il y restait des heures.
Ah, écouter.
Il écoutait et il écrivait.
Ah ouais.
Et tout ce qui lui passait, le terrain, les trucs, toutes les expressions un peu titi parisien, tout ça, hop, il les marquait. Mmh. Il est noté. Et c'est ce qui a fait ces dialogues absolument fabuleux. Et des films où Michel Audiard est dialoguiste. Enfin, je veux dire, il y en a pléthore, quoi.
Oui.
Et
je me souviens des dialogues repris par Belmondo dans les films aussi. C'est excellent.
Donc voilà, donc je trouve ça super. Moi j'adore. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez faire plus tard Michel Audiard? Eh oui. Quel bon métier que faire Michel Audiard. Donc voilà, découvrir donc cette semaine à la Brèche, donc
nouveau départ. Et j'ai trouvé donc le camping, c'était bien sûr Sénac en Périgord.
Ah, on n'était pas loin de faire là.
Hein. Ah oui, absolument.
C'était Sénac, t'as retrouvé l'info.
Ah oui, j'ai trouvé l'info, j'ai gratté pendant ce temps. Ah, effectivement, pendant 30 ans, hein, Franck Dubosc a passé ses vacances d'été à Sénac en Périgord.
D'accord, incroyable, ça je ne savais pas du tout. Hein.
Mm-hmm. Donc voilà, si vous passez par chez nous...
C'est pour ça qu'il devait être super à l'aise dans le film Camping. Il maîtrisait son sujet.
Absolument. Eh bien Pascal, on va retrouver la bande-annonce de Nouveau Départ et on se retrouve juste après.
Éternelle jeunesse de la femme que j'aime.
25 ans de boîte. Tu demandes un truc.
À l'amour de ma vie.
Bon, écoute, va chercher le gâteau et qu'on filme ça.
Sensation de chaleur?
Aucune.
Vous avez pris un petit peu de poids?
Non.
Bah donc c'est génial, vous n'avez aucun symptôme de la ménopause.
Voilà.
Je te dis qu'elle a pas d'amant, arrête avec ça. Ton amant c'est Stéphane, point d'interrogation, c'est qu'il y a un doute.
Vraiment, je ne suis pas avec cet homme, c'était un jeu.
T'es amoureuse de moi?
Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on n'est pas des amoureux, c'est pas...
On est quoi?
On est un couple.
On se sépare.
Quoi?
Moi je t'aime, alors j'agis.
Il faut qu'on se manque, qu'on ait peur de se perdre.
C'est dangereux, Alain.
Je sais. Tu devrais faire un papier là-dessus. Célibat 50 ans, nouveau départ au bois de garage.
Maintenant, tu prends du plaisir, ça te plaît, tu gardes, ça te plaît pas, tu jettes. Kiff, 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 kiff.
Aïe, oh, la honte, je suis bloqué.
Parce qu'il s'éclate, tu crois?
Quand ça va savoir, ça va être l'émeute. Alain, l'artiste, le beau gosse, pas de ventre, tous ses cheveux.
Je me régale.
T'es venu pour manger.
Oui.
Maman, c'est ta vie que t'as décidé de prendre en main. Et on s'en fout que machine, elle ait 35 ans.
Elle a 35 ans!
T'es sur haut-parleur?
Non.
Premier rendez-vous, toujours chez la fille. Comme ça, tu la déglingues et tu rentres chez toi.
Non, mais t'as l'air plaisante. Mais Thierry, tu vas pas me laisser comme ça! Thierry!
Désolée, je n'ai pas compris votre demande.
Voilà, on va bien rigoler, nouveau départ.
Oui, c'est comme une rigolote, hein. c'est pour se marrer.
Un petit peu de détente. Hein.
Oui, oui, oui.
Avec Franck Dubosc hein, et Karine Viard.
Deux très bons acteurs.
Exactement.
Qui partaient ensemble
en vacances.
Alors ça, j'en ai pris une botte ce soir. Oui, oui.
En Périgord. Je suis sûr qu'à prendre ta voiture, tu vas aller faire un tour tout à l'heure.
Ah, mais c'est Nac. Non, mais je connais là-bas, tu sais.
J'imagine. Allez, on enchaîne, on quitte le camping de Sénac pour aller trouver des solutions.
Le livre, oui, le dernier film de Michel Gondry.
Ouais.
Le livre des solutions. Donc c'est un film français d'1h42, c'est une comédie dramatique. Alors évidemment, Michel Gondry a réalisé en 2013, entre autres, hein, L'écume des jours. Avec Romain Duris, Audrey Tautou et Gad Elmaleh, oui, qui est tiré donc du roman de Boris Vian,
mm-hmm.
qu'on a tous étudié à l'école, non?
Oui.
Oui, non, tu l'as eu toi aussi?
Non. C'est passé entre mes mains, oui.
T'as pas gardé un gros souvenir?
Non, jamais été pris.
Moi aussi, moi j'ai bien aimé. Non, Boris Vian, j'ai pas tout lu de Boris Vian. Je sais ouais. pas, si, même pas s'il a écrit d'autres livres d'ailleurs. Mais l'équipe des gens, oui, elle est c'est quand même. C'est un souvenir.
C'est loin.
Tu te souviens pas de, cette,
non, c'est loin.
De cet homme qui veut guérir sa femme malade avec des fleurs et tout.
Ah ouais,
c'est une course infernale.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est un très bon roman. En plus, moi j'y connaissais rien à l'époque. Je découvrais les auteurs. Et non, celui-ci m'a marqué un petit peu quand même. Qui va-t-on retrouver?
Ah,
on va retrouver Pierre Niney, évidemment. Blanche Gardin, qui quitte les planches pour aller au cinéma. Alors, c'est pas la première fois, Blanche Gardin, qui joue dans un film. On va retrouver aussi Francky Wallach. Alors, c'est l'histoire de Marc qui s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante, Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ces problèmes. Alors, le livre des solutions, donc, est la première collaboration entre Pierre Niney et Michel Gondry. Pourtant, les deux hommes s'étaient déjà côtoyés des années auparavant. En effet, le comédien avait choisi en 2012 le réalisateur comme parrain pour la soirée des révélations organisée chaque année par l'Académie des Césars pour les jeunes acteurs et actrices prometteurs. Pierre Niney n'a d'ailleurs pas manqué de partager ce souvenir sur son compte Instagram lors de l'annonce de sa participation au Livre des Solutions. Et comme il nous dit, en 2012, je débutais à peine dans le cinéma. J'étais intimidé et impressionné par cette industrie quand j'ai été invité à une soirée pré-César. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai envoyé une lettre à l'un de mes réalisateurs préférés en lui demandant de m'accompagner comme parrain à cet événement. Je n'y croyais pas du tout, mais je l'ai fait quand même. À l'époque, je regardais en boucle Be Kind, Rewind and Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Grand film. J'étais obsédé par la créativité et l'enfance que Michel Gondry mettait dans ses œuvres. La veille de l'événement, je n'avais aucune nouvelle, ce qui me paraissait totalement logique. Quand j'ai reçu un mail me disant que Michel rentrait de Los Angeles et serait présent avec moi, je n'en revenais pas. J'ai passé une soirée incroyable, on en a bu et rigolé, on a parlé de Hollywood, de Chabat et surtout de son ami et mon idole, Jim Carrey.
Ah oui.
Et oui, la fantaisie et la gentillesse de Michel m'ont donné envie ce soir-là de désirer et de croire encore plus à mon rêve, faire du cinéma toute ma vie. 11 ans plus tard, je vais débuter le tournage de son nouveau film. Quant à Michel Gondry, il déclare au sujet de Pierre Niney, « J'ai pensé naturellement à lui pour le rôle de Marc. Je trouvais qu'il avait fait des choix pertinents en tant qu'acteur, qu'il avait doté d'un très bon sens du timing, qu'il avait une excellente diction et qu'il pouvait être très drôle. En outre, pour que je puisse m'identifier à un comédien, il ne faut pas qu'il dégage trop de testostérone. Pierre me semble équilibré de ce point de vue. » Alors, ça sonne un petit peu comme un autoportrait pour Michel Gondry. Il fait du personnage de Marc son alter ego et s'inspire de sa propre vie. Juste avant, comme il nous dit donc, juste avant de faire Eternal Sunshine of the Spotless Mind, j'ai rempli un cahier en écrivant tous les problèmes rencontrés sur Human Nature. Puis j'ai noté toutes les solutions à ces problèmes. Le personnage que joue Pierre Niney, c'est moi à 70% environ. C'est comme un autoportrait de lui. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de ce point de vue-là. Quoi. Donc dans ce film, Michel Gondry se confronte à sa bipolarité, découverte lors de la production douloureuse de L'écume des jours. Il se souvient dans les colonnes du magazine Première, et il nous dit « Je prenais des médicaments pour l'humeur et les obsessions intenses qui m'empêchaient carrément de vivre. Durant le tournage, ça s'est dégradé. On a commencé le montage et j'ai arrêté mon traitement. Là, mon esprit a explosé. Un mélange de mégalomanie et de peur, avec des moments super intenses où j'avais l'impression de faire partie de l'histoire, de créer des choses totalement innovantes. Un psychiatre m'a diagnostiqué, bipolaire peu après. » Alors. C'est je trouve ça fantastique quand même. Déjà, un, qu'il avoue, et de deux, que ça s'est produit sur le tournage de Eternal Sunshine, donc de Spotless Mind, donc avec Jim Carrey. C'est marrant parce que le personnage de Jim Carrey, c'est lui aussi dans le film. Ouais. C'est des gens qui sont perdus, qui cherchent l'amour. Moi, je vous le recommande, le film. Hein. Vous pouvez le voir. Il n'a pas vieilli, je l'ai revu pas très longtemps. C'est vraiment, vraiment un très, très grand film. Et ouais, effectivement, on dirait qu'il se projette à chaque fois. Et je pense que c'est ce qui nourrit aussi ces films, de ces personnages un peu, je ne dis pas borderline, mais un peu spéciaux, un peu rêveurs, un peu perdus parfois. Et moi, c'est ce qui me plaît bien dans le cinéma de Gondry. Quoi. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait filmé L'écume des jours. Parce que le protagoniste du film, il est un peu comme ça aussi. Il est perdu, mais c'est une course à travers le temps. Il essaye de il est amoureux fou de sa femme, il essaie de la guérir avec des fleurs. Il achète des tonnes de fleurs tous les jours. Et c'est ça un petit peu cette quête de l'impossible. Et j'aime bien, je trouve ça vraiment, vraiment touchant que Gondry justement avoue dans la presse être bipolaire et avoir pété les câbles pour le montage en plus du film. Je trouve ça vraiment un petit peu émouvant.
Assez courageux.
Moi, je trouve ça émouvant quand même.
Ouais.
Donc, Michel Gondry a écrit à l'origine le livre des solutions en 2018-2019 en langue anglaise afin de mettre de la distance et de ne pas se confronter directement à ce qu'il avait vécu sur l'écume des jours. Puis le script est resté sur son ordinateur pendant des années avant d'être retrouvé par son ancien assistant. Il avait d'abord en tête Adam Driver pour le rôle principal avant de transposer le projet en France et de confier le rôle à Pierre Niney. Comme il nous dit, acteur génial qui n'a pas hésité un instant à être énervant. Je trouve ça très bon. Donc il a été tourné dans les Cévennes, hein. Il a été tourné en juin et juillet 2022, principalement à Saint-Sauveur-Camprieux et Villemagne dans le Gard. Les figurants étaient les habitants de la région, tandis que la moitié de l'équipe technique était locale. Voilà pour la petite précision technique.
C'est vrai, on avait déjà parlé dans d'autres films où
on invite les gens du village,
les gens du cru,
pour participer. Je crois qu'on est vraiment plus dans la réalité.
Les corps l'ont fait, et puis plein d'autres réalisateurs l'ont fait aussi. Alors il y a Tante Suzette dans le film quand même. On va parler un petit peu de Tante Suzette qui va chez sa tante, Pierre Niney. Donc le personnage de Tante Denise est directement inspiré donc de Suzette, la tante de Michel Gondry, qu'il avait filmé dans son documentaire « L'épine dans le cœur » en 2010. Et comme il nous dit, elle a toujours été ma plus grande admiratrice. Depuis que je suis né, elle s'enthousiasme pour mes fabrications. Il était impossible de prendre du recul avec elle. Elle me félicitait pour chacun de mes gestes créatifs. Je crois pouvoir dire que j'avais son favori dans la famille, raconte le cinéaste. Le livre des solutions a d'ailleurs été filmé dans la maison de Suzette, située à Villemagne. Et comme il nous dit, j'ai passé tant d'été dans cette maison, elle est pleine de vestiges. Nous y avons tourné ce qui s'est passé exactement au même endroit, plan par plan. C'était comme de repeindre les murs avec la même couleur. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu d'éclairage, un petit peu sur le projet. Et bien moi, je trouve ça super.
Exactement.
Vraiment, vraiment, vraiment super. Je vous encourage vraiment d'aller découvrir donc, le livre des solutions que nous passerons à la brèche cette semaine.
Avec Pierre Niney, toujours excellent, on le retrouve tout de suite.
Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Là, c'est comme ça qu'on fait des films.
Ça vous plaît pas?
On arrête le tournage.
Plan B. Oui, plan B, on va finir le montage chez la tante de Marc.
Désolée de vous embêter avec ça, Denise, mais là, on est au point mort.
Il faut être patiente et l'aider à retrouver son chemin.
Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait 2 jours qu'il fait que ça.
Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver.
Scotch !
Le livre des solutions.
Ah, c'est quoi le livre des solutions ?
Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef-d'œuvre. Qui s'était arrêté au titre. Démarre ton projet. Fais ce que tu veux.
Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite.
C'est pour couper.
Tu klaxonnes.
Apprends en faisant.
Il a l'air vraiment bien ton film.
Et à l'arrière, on installe les producteurs.
Ils peuvent rien voir là, les producteurs.
Voilà, exactement, c'est ça. C'est du jamais vu.
Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée.
Vous allez interpréter mon corps, c'est tout simple.
Ça va aller. Tu t'en sors bien.
Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off.
Voilà, un très bon rendez-vous.
Mais sympa, la bande
annonce. Le livre des solutions. Et là aussi, vous avez passé un bon moment parce que c'est, je pense, un joli film à ne pas manquer avec de beaux acteurs. Pierre Niney, que nous évoquerons tout à l'heure dans le personnage de la semaine dans l'émission.
Bon
Eh bien, c'est noté, Pascal, pour ce rendez-vous à nouveau à la Brèche, dans ces 3 salles. On va retrouver l'été dernier.
C'est un nouveau rendez-vous, de Catherine Breillat. C'est un film français, 1h44, c'est un thriller, un drame. L'été dernier. Alors évidemment, Catherine Breillat, je vous la présente plus. En 2014, entre autres, elle a réalisé « À but de faiblesse » avec Isabelle Huppert, « Un coup de chaîne ». Et bien d'autres films. Au niveau des acteurs, on va retrouver Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivia Rabourdin, Clotilde Courau, qui revient pour la deuxième fois.
C'est vrai, on le voit un peu partout,
mais c'est très bien. C'est une très bonne actrice. Angela Chain et Serena Hu. Donc c'est l'histoire de Anne, avocate renommée, qui vit en harmonie avec son mari Pierre et leur fils de 6 et 7 ans. Leur fille, pardon. Un jour, Théo, 17 ans, fils de Pierre d'un précédent mariage, emménage chez eux. Peu de temps après, il annonce à son père qu'il a une liaison avec Anne. Donc, l'été dernier, le remake du film danois Queen of Hearts. Le projet a été initié par le producteur Saïd Ben Saïd, qui avait envoyé un mot à Catherine Breillat en lui rappelant qu'il s'était rencontré au festival de Belfort, qu'il venait de racheter les droits d'un remake d'un film danois et qu'il pensait que la scénariste ferait mieux que l'original. Cette dernière se rappelle. À ce moment-là, j'étais au fond du trou. Je n'avais plus envie de faire du cinéma. Je pense que j'étais aussi en dépression larvée. Je suis quand même en très mauvais état physique. Être hémiplégique n'est pas simple. J'ai regardé le film et j'ai été stupéfié par ce mensonge qui est raconté. proférer un si gros mensonge et arriver à le faire croire à l'autre, il faut quand même être dans une forme de vérité pour y arriver. Je trouvais que c'était un dispositif scénaristique absolument génial, digne de Shakespeare. Alors, c'est Valeria Bruno Tedeschi qui devait tenir le rôle d'Anne au début de l'annonce du projet. Donc si sur le papier il était à l'origine question d'une histoire d'adultère avec un beau-fils beaucoup trop jeune, ce n'est pas vraiment cela que Catherine Breillat voulait raconter. Et elle nous dit « Je n'aime pas le cinéma réaliste quand on a à dire des choses convenues, étriquées, moralistes. L'art moraliste enlaidit et rétrécit les gens. Mais l'art est moral quand il est embelli. Porte un regard sur eux qui les épanouit, les transfigure. Contrairement à ce qu'on croit, je suis hyper romantique, je suis obsédé par la pureté. C'est pour ça que je ne supporte pas l'adjectif sulfureux à mon égard. Ni que l'on dise que je fais du cinéma érotique. Je hais l'érotisme. » Voilà, ça c'est dit, hein. Vous l'avez compris, hein.
C'est noté.
Alors, qui pour Théo, l'avenant Catherine Breillat a rencontré Samuel Kircher grâce à son frère Paul Kircher, en tête d'affiche du lycéen de Christophe Honoré, et est tombé sous son charme. Et comme il nous dit, un charme absolu, la grâce absolue. Samuel est un être absolument gracieux, lumineux et en même temps totalement mystérieux, opaque. Il est abandonné à la caméra. Il ne la craint pas. Il se laisse dévorer par elle sans qu'un muscle ne tressaille. Samuel a une manière de sourire incroyable. Les hommes qui sourient, il n'y en a pas beaucoup à l'écran. Et pourquoi Léa Drucker donc ? Alors c'est le producteur donc Saïd Ben Saïdi qui a proposé à Catherine Breillat de choisir Léa Drucker pour jouer Anne, la réalisatrice, nous confie. A priori, elle n'est pas une actrice pour moi, mais quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée formidable. Surtout, je l'ai vue comme moi, je la filmerai, non comme elle l'avait déjà été filmée. Tout d'un coup, elle est devenue mon actrice, là, chez moi, en la regardant tout simplement dans les yeux, me parlant du scénario, de son désir de faire le film, de la confiance qu'elle me faisait, alors que j'ai quand même une réputation effarante, qui n'est pas moi, mais que j'ai. Léa a un côté à la fois bergmanien et hitchcockien. Voilà un petit peu pour vous donner quelques éclaircissements donc, sur le dernier film donc, de Catherine Breillat, donc l'été dernier. Nous aurons à la brèche cette semaine.
On va passer au sixième rendez-vous cette semaine à la brèche. Lou, y es-tu ? La question donc, de ce rendez-vous.
Alors c'est un documentaire, oui.
C'est un documentaire.
Voilà. Lou, y es-tu ? Documentaire français d'une heure 25 de Clara Bouffartig. Donc, des jeunes, des enfants et leurs parents viennent consulter, consulter souffrance en bandoulière. Au centre médico-psycho-pédagogique, les soignants sont là pour les accompagner en thérapie. Par le jeu, le dialogue, le silence, en famille, en groupe ou individuellement, ils cheminent pour les aider à grandir. La nuit, dans les couloirs et la salle d'attente, entre rêve et cauchemar, un drôle de petit bonhomme s'anime et libère ses émotions. Il était une fois derrière le symptôme, tapis dans l'ombre des enfants, des adolescents et des parents, qui avait peur du loup. Alors, comme nous dit la réalisatrice, donc, ce film est né de ma rencontre avec l'équipe du centre Claude Bernard qui s'est faite autour de mon précédent film « Tempête sous un crâne ». J'ai découvert avec eux un autre regard porté sur l'enfance et sur ses difficultés qui m'a bouleversé. J'ai mis 5 années à réaliser ce film. J'ai d'abord assisté aux réunions des soignants, puis je suis allé dans les séances de soins de ceux qui acceptaient de me recevoir. Et j'ai été frappé par la place faite aux parents, par l'approche de l'enfant dans sa globalité qui comprend son environnement. Pour eux, il est impensable d'accompagner un enfant sans inclure ses parents dans le processus de soins, parce que leur exclusion serait une violence subie par l'enfant, même lorsque les parents sont fragiles ou malades. Quoi qu'il en soit, il reste les parents et il est indispensable qu'ils soient au cœur du dispositif de soins. À ce moment-là, j'ai senti que c'était un lieu extraordinaire pour faire un film autour des liens familiaux. Voilà, un documentaire d'immersion dans l'univers un petit peu de la souffrance des enfants et des parents aussi. Parce qu'évidemment, oui. Quand les enfants souffrent, les parents trinquent également. Donc,
effectivement, oui. Mm-hmm. Donc il y aura une projection qui sera suivie d'un débat,
oui.
À la Brèche, ça sera le 30 septembre, je peux lire, à partir de 20h, donc voilà, on aura l'occasion, alors 20h je ne suis pas sûr, j'ai tourné la page, mais enfin oui, c'est un moment d'échange qui sera 15h30 précisément, le samedi 30 septembre.
Voilà, 15h30, c'est ça. Ouais. Oui. Voilà. C'est 15h30, c'est une projection suivie d'une discussion avec Dominique Pandelio, qui est secrétaire du CMPP à venir en Nouvelle-Aquitaine, et elle sera accompagnée d'autres membres de l'association. Donc voilà. Donc la présence de la réalisatrice du film qui est sous réserve, c'est pas encore sûr.
Voilà. Voilà, voilà, donc notez bien ce rendez-vous et vous avez donc à la Brèche ces petits fascicules qu'on retrouve disposés sur les tables
tous les 15 jours. Voilà, renouvelés tous les 15 jours.
Voilà, tout simplement. Et puis on a ce petit documentaire aussi qu'on peut retrouver en papier, en format papier, à la Brèche aussi. On va parler d'un acteur que tu as évoqué tout à l'heure, c'est Pierre Niney, mais auparavant on va revenir sur un très très bon rendez-vous qui là aussi fait partie des incontournables de la Brèche, hein. C'est aussi une rencontre qu'on va pouvoir découvrir à la Brèche cette semaine.
Voilà, c'est vrai qu'on va alors le mercredi 27 septembre, donc à 18h, il y aura une discussion autour du film et du cinéma d'Aki Korismäki, donc après la projection du film Les Feuilles Mortes, qui est un film finlandais d'une heure 21 qu'on passera donc en version originale sous-titrée, hein. C'est une comédie dramatique, hein, donc avec Alma Poisti et Jussi Vatanen. Donc c'est l'histoire de deux personnes solitaires qui se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki, et chacun tente de trouver en l'autre son premier et unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur. Alors, c'est vrai que c'est le film de Korismäki. J'ai pas fait de papier dessus. C'est un cinéma finlandais. C'est très spécial, le cinéma finlandais. Hein. Ça me fait penser à plein d'autres cinémas. Et c'est quand même intéressant. Il porte un regard un petit peu sur deux personnages qui s'aiment, qui essaient de se rapprocher un petit peu. C'est très austère. C'est très film annonce, c'est hyper austère, mais moi j'aime beaucoup.
C'est sombre.
C'est pas forcément sombre, hein, mais les couleurs sont sombres. Mais voilà, c'est le cinéma de Korismäki qu'on a passé pendant des années à la Brèche du temps de mon collègue Jean-Michel. Et voilà, c'est quand même assez intéressant. C'est porter un regard un petit peu sur une autre manière de filmer, une autre manière d'appréhender un petit peu les personnages. Voilà, donc je vous le recommande. Donc ça sera le mercredi 27 septembre à 18h avec une discussion. Donc quand même ma collaboratrice de l'Artec à la fin de la projection.
Voilà, on aura l'occasion de visiter un petit peu la Finlande, si vous ne connaissez pas, à travers ce film, on ira carrément dans la capitale de la Finlande.
Helsinki, oui, absolument.
Voilà, je ne connais pas, mais...
Moi non plus.
Pareil que... on voit très peu le jour là-bas, non?
Helsinki, mais ça dépend, je sais pas, je crois que t'es près du pôle, là.
Ah ouais.
T'es près du pôle, je crois qu'il y a une partie de l'année où t'es tout le temps dans la nuit, l'autre où tu te couches jamais. C'est en gros, c'est ça.
C'est un petit peu compliqué.
Je connais pas grand-chose dans les pays nordiques, là. Mais ça doit être un beau pays, hein, ça n'empêche pas.
Voilà, donc un deuxième rendez-vous rencontre à la Brèche cette semaine. On va revenir sur l'acteur de la semaine que tu as choisi, qui fait son retour sur les écrans dans un très très beau film, hein, en tout cas.
Eh oui, le film est Michel Gondry, il vient sur Pierre Niney. Pierre Niney qui débute, on va dire, au cinéma, hein, on va dire, c'est un premier, mais qui va grimper, c'est quelqu'un qui aura certainement une très très bonne carrière, qui est demandé un peu partout maintenant. Donc il est acteur, scénariste et réalisateur. Il a réalisé quelques courts-métrages, Pierre Niney. Il est né Pierre Niney, c'est 14 années de carrière, 36 films, 12 nominations, 5 récompenses sur 36 films. Tu vois le ratio?
Ah ouais,
c'est quand même pas mal.
C'est quand même bon chiffre, hein.
12 nominations.
Belle cadence, hein.
12 nominations.
Ouais.
Donc il est né le 13 mars 1989 à Boulogne-Billancourt. C'est quel département?
Ah, bonne question.
La question qui tue. Ça, il fallait y attendre, celle-là.
Alors, écoute...
Les Hauts-de-Seine, monsieur.
Ah, d'accord, merci.
Donc, au niveau des récompenses, en 2012, il a reçu le Swan d'or de la révélation masculine au Festival de Cabourg pour « J'aime regarder les filles ». En 2013, il reçoit le Swan d'or du meilleur acteur au Festival de Cabourg pour « 20 ans d'écart ». Avec Virginie Efira.
Exact.
En 2014, il reçoit le prix Patrick Devers. En 2015, il reçoit, et là c'est la consécration, le César du meilleur acteur pour...
Sauver ou périr.
Yves Saint-Laurent.
Ah, d'accord.
Yves Saint-Laurent, oui, gros film, hein, de sa carrière quand même. Je crois que c'est ce qu'il a... C'est là où il a crevé l'écran, je crois, Pierre Niney, hein, si je me trompe. Alors, sa filmographie.
Ah.
Donc, Pierre Niney, on le voit apparaître à l'écran en 2007 dans Nos 18 ans de Frédéric Berthe avec Théo Frillet et Michel Blanc. On le verra ensuite en 2009 dans L'armée du crime de Robert Guédiguian, un film sur la résistance avec Simon Abkarian et Virginie Ledoyen. En 2010, on le verra dans ce très bon film, j'en ai parlé plein de fois de ce film-là, de Jean-Pierre Améris avec Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde. les émotifs anonymes. En 2011, on le verra dans J'aime regarder les filles, dans un film qui se fera remarquer, de Frédéric Louf avec Audrey Bastien et Louise Delage. En 2013, on le verra dans 20 ans d'écart, donc de David Moreau avec Virginie Ferrat et Gilles Cohen. En 2014, alors là c'est la consécration, un film de Jalil Lesper avec Guillaume Gallienne et Charlotte Lebon. Yves Saint-Laurent. En 2017, on le verra dans ce grand film d'Éric Barbier avec Charlotte Gainsbourg et Didier Bourdon, Les Promesses de l'Aube. En 2020, on le verra dans Boîte Noire de Yann Gosselin.
Tu en avais parlé.
Avec Lou Delage et André Dussolier. En 2021, alors là, oui, là, il a un rôle un petit peu à contre-courant. Il jouera dans OSS 117, Alerte Rouge en Afrique, avec Jean Dujardin et Fatou Ndiaye. Et en 2021, on le verra dans Goliath de Frédéric Tellier avec Gilles Lelouch et Emmanuel Berco.
Je le disais aussi, un très très bon rôle dans le film du réalisateur Frédéric Tellier. Ce film qui retrace la vraie vie d'un sapeur-pompier professionnel.
Oui.
Enfin, pompier de Paris,
oui,
hein, sauvé au périr. Donc là aussi, il y a incarné.
Oui, exact, oui, sauvé au périr.
Qui a été brûlé en 2018.
Oui, exact.
Alors,
sa biographie, Pierre Dinet, qui es-tu? D'où viens-tu?
Que fais-tu?
Ben ça, on le sait. Pierre Dinet débute sa carrière de comédien au théâtre à l'âge de 11 ans.
Ça fait tôt.
C'est très tôt. Rapidement, il montre qu'il a du talent et est admis au cours Florent.
Alors, c'est papa et maman qui ont poussé un petit peu là.
Écoute, avant de devenir le plus jeune pensionnaire de la Comédie Française à 21 ans. Alors, même si papa et maman ont poussé, je pense que Pierre a eu beaucoup de talent.
Ouais.
Parce qu'effectivement, on peut te pousser au cours Florent, mais encore faut-il y rester. Et c'est pas donné à tout le monde. En 2007, il obtient un petit rôle au cinéma dans la comédie Nos 18 ans. Niné poursuit sa carrière avec des films d'auteur. Il tourne dans un court-métrage de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval dans La Consolation et dans L'Armée du crime de Robert Guédiguian qu'il retrouve en 2010 pour Les Neiges du Kilimandjaro. C'est vrai que je ne l'ai pas noté celui-ci. Avec Grégoire Le Prince Ringuet, il plonge dans L'autre monde en 2010 de Gilles Marchand. Après la comédie Les émotifs anonymes, dans laquelle il croise Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré, Pierre Niney obtient son premier grand rôle au cinéma dans J'aime regarder les filles en 2011 de Frédéric Louf. La profession le remarque alors. Il est ainsi nominé pour la première fois au César comme meilleur espoir et remporte un prix au Festival de Cabourg. Il prend ensuite la route accompagné de François-Xavier de Maison et de Nicolas Duvauchel dans la comédie Comme des frères en 2012. Bien établi dans le paysage cinématographique français, Pierre Niney voit son année 2013 marquée par son rôle de Balthazar dans 20 ans d'écart, où il forme un couple pétillant avec Virginie Efira. Derrière, il repasse par la case théâtre où il se produit dans Phèdre, avant de se glisser dans la peau d'Yves Saint-Laurent, le célèbre couturier mort en 2008 et qui campe devant la caméra de Jalil Lesper. Après ce rôle fort, Pierre Niney campe un jeune écrivain usurpateur pris à son propre piège dans Un homme idéal. Tient le haut de l'affiche de François Ozon dans le film Franz et se glisse dans la peau du fils du commandant Cousteau dans L'Odyssée. Et enfin porte le film d'aventure initiatique La promesse de l'aube d'Éric Barbier. Parallèlement, il s'improvise dealer en compagnie de ses potes dans la comédie Five, premier long métrage d'Igor Gottesman. Habitué aux rôles difficiles, il joue aussi un sapeur-pompier cherchant à réapprendre à vivre après un grave accident. Pierre Niney est ensuite à l'affiche de deux thrillers, Amant et l'autre Boîte Noire, avant de rejoindre Jean Dujardin dans OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, de Nicolas Bodos, troisième volet, donc consacré donc à l'agent secret, donc aux aventures de l'hilarant Hubert Bonisseur de la Batte, l'agent secret Foirousse. Ainsi, et pour l'instant, la carrière de Pierre Niney, elle ne fait que commencer. Et je pense qu'il nous réservera bien des surprises à l'avenir.
Alors, il a 34 ans, Pierre Niney. Hein.
34 ans, oui.
C'est jeune. Hein.
C'est très jeune. Il a commencé très jeune.
C'est un acteur, un artiste qui est relativement discret. Hein. C'est pareil, hein. On ne voit pas trop devant les micros.
Mais au début, il était un petit peu en retrait. Ah oui, après, donc, dans la presse.
Ouais,
après,
moi, je ne vois pas trop sur les plateaux de télévision.
C'est pas quelqu'un qui se met sur le devant, on va dire, des tabloïds, on va dire, et de la presse télévisée. Enfin, on le voit quelqu'un qu'on ne croise pas, comme on va dire, habituellement. Voilà. Oui. C'est pas comme certains acteurs où tu les vois un peu partout, je sais pas, comme Franck Dubosc ou je ne sais quoi, tu vois, c'est quelqu'un de relativement discret. Mais voilà, mais qui voilà, c'est déjà un très très bon acteur et je pense qu'il va se bonifier avec le temps et pourquoi pas aussi réaliser des films, hein, parce que bien souvent ils se mettent à la réalisation.
C'est un très très bon moment.
Et ce n'est que le début.
Et exactement, on aura bien sûr une attention particulière sur l'acteur et la suite de sa carrière. En tout cas, beaucoup de rendez-vous cette semaine à La Brèche et c'est toujours un plaisir de faire un petit tour, un petit saut. En ce moment, bien évidemment, vous avez des films qui tournent bien à La Brèche. On en a parlé il y a encore quelques jours.
Oui, on a un métier sérieux qui marche relativement bien. On a la Nonne 2.
Ah oui, ça plaît
qui a un certain succès.
Qui veulent se faire peur.
Voilà, pour se faire peur, pour retrouver renouer un petit peu avec le genre épouvante. Hein. Mmh. Et voilà, c'est très bien. C'est très bien. C'est un automne. Alors évidemment, la fréquentation marque un tout petit peu le bas pour l'instant parce que c'est évidemment on est en septembre et voilà, on va avoir un petit peu quand on va s'avancer un peu plus dans l'automne. Hein. Là, on est déjà en automne, donc on va voir. Après, il y a des gros films qui se profilent à l'horizon.
On attend avec impatience la suite. Des Trois Mousquetaires, enfin D'Artagnan,
exactement,
qui va sortir en décembre.
Voilà, qui s'appellera Milady.
Milady, oui.
Le deuxième opus. Hein. Voilà, il y a ça. Comme on disait la semaine prochaine, il y aura le prochain.
Alors ça aussi,
le prochain Ridley Scott,
attendu,
Napoléon.
Voilà,
Napoléon. Napoléon. Alors là, ça va être chouette parce que c'est un film historique. Puis moi, j'ai me tarde de voir un petit peu sous quel angle. Il attaque ce personnage-là, Bonaparte. Comment veux-tu le prendre ? Sous quel angle ? Voilà, il ne passe pas s'éparpiller.
C'est pas évident de condenser toute une vie d'un.
Oui. Et puis
un
voir un
personnage
petit peu, voilà,
comme ça.
Voir un petit peu au niveau historique si c'est respecté, parce que c'est qu'il y a des. Alors autant tu as des grands fans de Bonaparte, hein, tu as même des clubs Bonaparte et tout.
Ce que tu m'expliquais la semaine dernière.
Je trouve ça quand même assez extraordinaire. Donc on va voir. Les gens vont être vraiment à l'affût de l'œuvre de Ridley Scott. Voilà. Et puis il n'y a pas que ces films-là, il y en aura plein d'autres, hein, dont on en parlera au fur et à mesure, évidemment.
Voilà. Et puis bien sûr des films qui font le retour de certains acteurs comme Equalizer 3 que j'ai pu voir récemment.
Alors
9 secondes, oui. Avec un petit peu plus de violence et de sang-quête, mais effectivement il y a de l'action, il y a aussi un rythme qui est beaucoup plus soutenu dans ce troisième volet, avec toujours aussi une synergie avec la musique, hein. C'est très important. Les musiques, c'est aussi le rythme du film. Là on est vraiment pris dans ce film là et on voyage aussi à travers la Sicile. Et c'est formidable.
Il y a des belles images de la Sicile.
Absolument.
Ah oui, j'imagine.
Voilà, très beau village et en tout cas, c'était un plaisir de retrouver notre acteur préféré.
Denzel Washington.
Denzel Washington, qui est toujours aussi jeune, hein, finalement.
Oui, t'as vu.
Change pas, hein, avec
change
le temps.
Pas, hein. Change jamais.
On réussit à les rajeunir un petit peu.
Ils sont
intemporels. C'est ça qui est formidable.
Mais quelle est leur recette ?
Ah là là, on va leur passer un petit message et on ne sait jamais. Vision toujours sur les écrans, là aussi, un très très bon film.
Oui.
Et puis aussi, du choix, le retour de Luc Besson, tu l'as dit, cette semaine sur les écrans. Ça va déménager.
Ouais. Plein de choses à découvrir. Comme chaque semaine d'ailleurs.
Exactement. Pascal, c'était toujours un plaisir de venir dans ta deuxième maison ici, je le disais. À La Brèche.
Et merci
je te laisse
à toi.
Le mot de la fin, Pascal.
Le mot de la fin, bien sûr. Prenez soin des vôtres. Regardez-moi à la télé. Bon, à part la coupe du rugby quand même, parce que ça bouge en ce moment.
Très important.
Écoutez Radio Grand Air et venez découvrir tous les films qu'on a à vous proposer. Il y en a plein. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine cinématographique.
À bientôt, Pascal.
Salut, Christophe. À la semaine prochaine.
Exactement.
Avec plaisir.